Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonsoir, bienvenue dans le JT Mode.
Comment ça va?
Je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste mode pour Mademoiselle et bienvenue dans le JT Mode. Merci d'être parmi nous, on est ensemble de 19h à 21h sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Sarah, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
Bonsoir, moi c'est Sarah, alias Itsaru. Je suis également streameuse dans multigaming et créatrice de prêt-à-porter de luxe pour hommes et beaucoup de choses. Et voilà, je suis aujourd'hui avec vous dans JT Mode, avec Anthony Vincent et des invités extraordinaires. Je viens de vous présenter les filles.
Alors, moi je m'appelle Kitsy Martin et je suis créatrice d'une marque de bijoux upcyclés qui porte mon nom, donc Kitsy Martin. Et je vis à Paris, voilà.
Et moi, je suis Dina Sultan, je suis styliste tendance, ce qu'on rentrera un peu plus dans les détails plus tard, et je travaille pour un bureau de style qui s'appelle Péclairs Paris, voilà.
D'accord.
Et j'habite Paris aussi.
Okay. Pourquoi vous spécifiez où vous habitez? À quel point c'est important pour vous, Paris, dans votre identité et votre carrière?
Moi, c'est majeur. Moi, je suis née à Paris. J'ai grandi en banlieue, je pense qu'on a à peu près le même parcours. Ouais. Paris, c'était, je pense que c'était un goal total quand je suis arrivée à Paris solo, j'avais 18 ans. Je sais pas, on habite quand même dans le cœur ADN de la mode, en fait. Et c'est indéniable. Enfin, j'en parlais encore aujourd'hui, c'est indéniable. On est vraiment au épicentre de la mode.
Et puis moi, personnellement, c'est une ville que j'adore et qui m'inspire énormément. Enfin, c'est une ville qu'on ne cesse de redécouvrir. Qui est très riche, culturellement parlant et visuellement. Je trouve que c'est très, très riche. Pourtant, j'aime beaucoup voyager, j'aime voir d'autres choses, ce qui se fait ailleurs. Mais à chaque fois que je reviens à Paris, je me dis, c'est quand même fascinant.
Ça bouge tout le temps.
Ouais. Très inspirant.
Il y a un tel turnover. Tu tournes la tête et il y a un nouveau café.
Voilà, c'est ça.
C'est assez fou. Comme on le disait, on est ensemble de 19h à 21h. L'émission va se dérouler en trois grandes parties. On va commencer par faire un petit tour de l'actualité de la mode, de l'industrie. Ensuite, ça va être l'interview de Kitsy et ensuite de Dina, tranquillement pour apprendre à vous connaître, à vos métiers respectifs, qui sont hyper intéressants, hyper enthousiasmants. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir, merci à vous.
Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Pas forcément dans ce que je vous ai envoyé avant, évidemment.
Qu'est-ce qui m'a marqué?
Vas-y.
Eh bien, je sais pas trop, en fait, là. Pour être honnête... Ah si, ce qui m'a marqué, c'est l'exposition Thomas Demande au Jeu de Paume, qui est un de mes artistes préférés, qui m'inspire depuis... Je pense que ça fait 15 ans que je regarde cet artiste, qui fait des photos magnifiques. En fait, il reproduit des scènes historiques en maquette papier à échelle 1. Donc imaginez des maquettes gigantesques dans lesquelles on peut rentrer.
Le degré de détail.
Voilà, et il est, voilà, c'est ça. Et ensuite, il les reprend en photo avec le même angle de photo que donc la photo d'inspiration qu'il a faite, qu'il a prise. Et c'est un travail qui m'inspire énormément par rapport à la couleur, la lumière, même tout le sens qu'il y a derrière par rapport à ce qu'est, comment on regarde une image aujourd'hui. Je crois que sa démarche, elle est très proche de celle de la mode aussi. C'est pour ça que ça me parle beaucoup. Et j'ai découvert son travail donc il y a longtemps. J'étais encore au tout début de mon boulot dans la mode et j'ai tout de suite été fascinée. Et là, le fait qu'il y ait enfin une expo de lui à Paris, juste lui, de son travail, j'étais trop contente et je l'ai vu il y a quelques semaines et je vais la revoir la semaine prochaine.
Ok, donc ça vient de commencer au Jeu de Paume le 14 février jusqu'au 28 mai 2023, le bégaiement de l'histoire de Thomas Demande.
C'est ça.
Ok, ça. Toi, c'est quoi ton inspiration artistique du moment peut-être, Dina?
Alors moi, je sors un peu moins. Malheureusement, j'ai un peu moins de temps libre. Mon dernier coup de cœur enfin c'est bête, hein, je suis désolée, ça va être pop culture, mais
c'est super la pop culture.
Mais ouais, ouais.
J'étais trop contente de voir The Last of Us en série. C'est un peu vieux, mais j'y avais tellement joué quand j'étais plus jeune, enfin il y a un peu plus longtemps.
Bah, en plus, en parlant ça de sur Twitch, ça se voit beaucoup. Enfin, il y a beaucoup eu de react sur la série.
C'était incroyable.
C'est normal. C'est la saga.
Le mimétisme, mais le degré de précision de entre le scénario et le jeu. Enfin, ça m'a. Bref, ça, en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas été happée par quelque chose. Voilà, j'aimerais bien parler d'une expo, mais pour être honnête, j'ai pas eu le temps d'en faire récemment. Donc voilà, ça c'était mon dernier.
Ça me donne envie de le voir.
Tu veux en savoir plus? Il y a un article
sur Mademoiselle, voilà. avec le podcast Le seul avis qui compte de Kalindi, qui est la critique cinéma et série de Mademoiselle. Donc c'est le seul avis qui compte sur la série The Last of Us. Voilà, tout est dans le titre. En tout cas, dans l'industrie de la mode, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses. On pensait qu'on était sauf après le fashion monde qui était interminable au début de l'année, mais non, il se passe encore des vertes et des pas mûres dans la mode, à commencer par les progrès de l'intelligence artificielle qui se démocratise. Et en fait, on entend des choses assez folles avec l'IA, puisque de plus en plus de jeunes créateurs et créatrices se mettent à faire des clashs, en fait. Ils nourrissent des intelligences artificielles d'images pour créer de nouvelles esthétiques. Par exemple, ils vont se dire « Ah bah Tiffany prépare une collab avec Nike, je vais mettre plein d'images de Tiffany, plein d'images de Nike et voir ce que l'IA me propose comme design. » Et ça donne des résultats assez fous. Mais il y a aussi d'autres possibilités, comme par exemple Levi's, qui vient d'annoncer qu'ils allaient confier leurs mannequins, le travail de modèle d'incarnation des vêtements, à des mannequins de synthèse, généré par une image de synthèse, par intelligence artificielle. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire?
Oui. Et en fait, ça me... Je sais pas comment expliquer, mais... Je sais pas, je suis pas trop à l'aise de l'idée, parce qu'on parle d'inclusion et on parle de quelque chose d'un problème social à la base que les gens ressentent. Ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des intelligences artificielles qui vont le ressentir, parce que bah, ils ressentent rien, tout simplement. Et en fait, pour moi, si tu veux inclure des gens, tu les inclus vraiment, tu n'inclus pas des gens qui n'existent pas.
Oui, parce que petit point en contexte, donc, ça a été annoncé par Levi's le 23 mars 2023, et ils ont expliqué qu'ils faisaient ça au nom de la diversité et de l'inclusion, justement.
Je ne vois pas le comprendre. C'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. J'aurais peut-être compris si ils voulaient peut-être se rénover un petit peu, tester de l'intelligence artificielle. Pourquoi pas? Mais là, ils ont quand même été très maladroits parce qu'ils ont utilisé des termes qui sont aujourd'hui très forts, dont des gens sont en victime et le vivent. Une intelligence artificielle ne vit rien, n'est pas humain, n'existe, c'est pas vivant. Parler de ça, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, en fait, là, c'est comme s'ils voulaient un peu humaniser l'intelligence artificielle, comme si c'était, je sais pas.
Je pense aussi que c'est le problème en ce moment de parler de tous ces sujets importants dans tous les sens. Et tout le monde se l'accapare un peu à sa sauce et le sort un peu n'importe comment et pour n'importe quelle raison.
C'est ça.
Et donc là, je pense que c'est clairement ce qui s'est passé.
Clair.
C'est un peu un greenwashing version inclusive.
C'est dur.
Donc voilà, ils ont fait une erreur. Ils font plein de trucs cool, mais là, ils ont foiré sur ce coup-là, quoi.
Ouais, je pense qu'ils ont voulu surfer sur... Sur le buzz de l'intelligence artificielle au niveau iconographique. En soi, l'idée peut être intéressante de se dire on va essayer d'aller au-delà de l'inclusivité, de créer des profils hyper inclusifs, mais le résultat en fait est très lambda quand on regarde les profils qui ont été créés. C'est des peaux qui sont très lissées, on est sur des physiques plutôt normatifs, on va pas explorer... L'intelligence artificielle, c'est normé elle-même, en fait. Même en la briefant sur l'inclusivité et la diversité, c'est resté très premier degré. Que des middle skin, des white skin, etc. Alors que, en fait, il suffit d'ouvrir la porte. Il y en a plus, normalement. Il y avait plusieurs profils aussi.
Peut-être qu'on peut aller voir sur l'Instagram de Levi's, Sarah, en attendant. Mais effectivement, je pense que... Après, en fait, je pense que Levi's a peut-être communiqué trop tôt. Parce qu'on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Ils ont montré un premier visuel, effectivement, un profil qui ressemble à une jeune femme qui ne serait pas blanche, qui est assez mince, effectivement. Mais en fait, Levi's a annoncé que ça allait leur permettre d'avoir des modèles de toutes les morphologies, de tous les âges, de toutes les tailles, de toutes les origines, et que ça ne remplacerait pas totalement le travail des mannequins qui va rester sur leur site, sur leur e-shop. Il y aura encore des mannequins pour certaines tailles et pour les autres tailles. Levi's annonce et promet une expérience d'achat plus inclusive. Mmh. Et en fait, je pense que les termes étaient un peu nébuleux et j'ai encore le secret espoir que ça permette à vous comme à moi, je ne sais pas, d'aller sur Levi's, d'avoir un compte client et que en fait, le mannequin soit généré à mon image. Mmh. Et qu'en fait, le mannequin me ressemble, fasse 1m80, le même poids que moi, et qu'en fait, je puisse voir sur le site de Levi's un mannequin qui me ressemble porter le vêtement en question. Mmh. Je renseigne ma morphologie et en fait, le mannequin me ressemble. Ça, ce serait super, mais Levi's n'a pas encore donné ce genre de détails. Donc en fait, j'ai encore un petit peu d'espoir, mais on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'ils ont pas sur leur compte Instagram?
Non, pas forcément. La manière dont ils ont communiqué sur ça n'a pas été bien gérée.
Hein. Ouais. Parce que si ça avait été le cas, ils auraient parlé d'une innovation e-retail sur, justement, comme tu dis, Anthony, sur la façon de se projeter, de maximiser l'expérience d'achat online. En l'occurrence, pour moi, ça n'a pas été exposé de cette façon. Ça a été plutôt dit, nous avons créé des mannequins qui doivent vous ressembler tous, qui doivent exprimer un peu toutes les différences. Et là, ils se sont complètement loupés. Je me positionne sur le « ils se sont complètement loupés ». Ils sont plutôt... ils sont plutôt inclusifs la plupart du temps. Ils ont, même sur leur offre produit, les tailles sont très larges. Ils ont été toujours dans la mixité aussi dans les représentations. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu maladroit de leur part. Quand même. Mmh.
Ouais. On a quelqu'un sur le chat qui dit Anx News, donc qui dit coucou, je suis éthiciste en intelligence artificielle. Une des choses positives que ces IA, c'est que ça permet l'accessibilité. Des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, handicap physique, pas de moyens économiques, etc., d'avoir accès à la création de modèles de mode. Qu'est-ce que vous en pensez?
Éthiciste qui s'écrit un peu comme éthique. Donc en fait, ça pose énormément de questions éthiques d'avoir recours à des mannequins humains ou alors générer des images de synthèse pour les remplacer. En vrai, je pense que ça, mis entre les bonnes mains, ça peut être hyper, hyper utile en fait d'avoir. T'arrives sur un e-shop et le mannequin te ressemble. Oui, je pense que c'est très génial.
On remet pas du tout. Je remets pas en question le principe de l'intelligence artificielle.
Ça, c'est fascinant d'ailleurs. C'est juste la manière dont on doit l'utiliser et comment.
Exactement. Et comment on en parle et pourquoi on l'utilise, les raisons, où est-ce qu'on veut évoluer. Et après, pour moi, là, personnellement, actuellement, la raison que Levi's évoque n'est pas très...
Ils n'ont pas parlé de la bonne manière. Voilà, savoir exactement comment ils vont évoluer sur ce sujet, mais là, ce n'est pas annoncé de la bonne façon.
Oui, puis c'était peut-être un peu prématuré sur l'usage de l'intelligence artificielle qui... on le voit, cherche encore ses marques et son territoire de création. On a vu que ça avait explosé sur les derniers, sur les derniers mois. Bon, voilà, peut-être
après,
que maintenant, ça demande
d'être maladroit sur un sujet qui est quand même sensible aussi. Dans le sens où...
Ça fait deux territoires un peu complexes.
C'est exactement ça. Donc, voilà.
Et tu l'as dit, Dina, il y a l'intelligence artificielle, on voit des images partout, c'est en plein boom, tout le monde s'amuse à jouer avec, voir quelles sont les limites créatives d'un tel outil. Et en fait, le spoiler, il n'y a pas de limite. voilà, on peut tout faire. On peut même créer des films, c'est assez extraordinaire. Écrire des scénarios de toutes pièces avec trois mots. Donc voilà, et il y a aussi de moins en moins de moyens, puisque l'intelligence artificielle progresse, de moins en moins de moyens de reconnaître en fait s'il s'agit d'images réelles ou d'images de synthèse. Je sais pas si vous avez vu passer ces images du pape assez folles qui sont fausses. Hein. Le pape n'a pas de doudoune Balenciaga.
Et de toute façon, c'est pour ceux qui veulent savoir. Pour ceux qui veulent savoir, je suis en train de voir parce que sur Twitter l'image elle est mieux faite. En fait, c'est au niveau de la main que vous voyez qu'il y a un problème.
Ah oui,
Et c'est comme ça que vous voyez que c'est du fake, quoi.
C'est quand même
pas vrai. Mais c'est super bien fait, ça c'est sûr, parce qu'au niveau de la texture, de la doudoune, des lumières, du jeu de lumière naturelle du soleil, qui, avec son visage qui est également illuminé par le soleil.
C'est fou.
Après, Photoshop, ça aide beaucoup aussi. Hein, je ne vais pas vous mentir pour régler la lumière, la luminosité.
En gros, moi, je débarque. C'est juste, on a mis
mis dans un ordinateur des données. On a dit le pape, doudoune, chaque.
Voilà.
Et ça donne ça.
Tu mets une photo du pape, 3-4 photos du pape.
Tu mets Balenciaga.
Et c'est l'inspiration.
Voilà.
Street style. Et voilà, la photo est générée.
Okay. Exactement. Et il y en a plein après qui se sont amusés à le faire avec des présidents de certains pays. Mais là, cette personne qui a fait sur le pape a énormément retouché après sur Photoshop, qu'on se le dise, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont fait sans retouche.
Ouais.
Et ça sonne extrêmement faux. D'accord. C'est très moche à voir même. Et là, la personne a énormément travaillé sur la photo en retouchant les lumières, en retouchant un petit peu comment était fait la texture, etc. Parce que ça reste quand même de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas parfait. Et voilà.
Mais effectivement, ça se perfectionne d'heure en heure. Enfin, les progrès sont extrêmement rapides. Un peu plus bas dans l'article, effectivement, Sarah, tu vas voir qu'il y a des photos de Trump en train d'être arrêté qui sont générées par images artificielles.
Aussi.
Obama et Merkel à la plage en train de prendre une glace. Macron qui sort les poubelles lui-même.
Oui, oui.
Donc voilà, c'est assez fou.
Et elles ont tourné en plus. Hein. Il y a
génial.
Beaucoup de gens qui ont cru. Hein.
Mais moi, je ne comprends pas comment on peut y croire. Mais effectivement, ça pose des questions de littéral.
Mais oui, de... il y a des vraies questions.
Il y a ça aussi.
Des questions éthiques et aussi de reconnaissance d'image. Comment est-ce qu'on reconnaît une fake news aujourd'hui?
Oui, bien sûr, c'est dur.
En tout cas, ma mère, elle ne voit pas.
Ouais.
Bah, ma mère non. Bah,
mais vous savez, c'est le genre d'image que tu peux envoyer sur WhatsApp au tonton tata. Ils vont
y
croire.
Oui, sur le avant, ça se reconnaissait.
Ouais.
Celle de tonton tata, on voyait le montage.
Les photos montage étaient moins bien faites.
C'est hyper
ça, c'est vrai.
Ben voilà, là, il y a quand même de quoi se poser la question.
Ouais.
Et effectivement, ça veut dire aussi qu'on doit toutes et tous acquérir des réflexes de vérification d'image, donc faire une recherche inversée, par exemple.
Mal,
ouais. Ça va nous amener à
être un peu plus vigilants sur les infos qui arrivent.
Totalement.
Exactement. Sachant qu'en plus, on a par des images, ils utilisent ils mettent des fake news et après, bah, les personnes y croient. Et c'est vrai que, par exemple, sur Twitter, il y a ce problème-là, c'est qu'on consomme l'information très vite et on ne va pas forcément vérifier. Alors que très souvent, on a juste à cliquer sur la publication, on voit les commentaires et au final, on comprend que l'information n'est pas forcément celle qu'on pensait au tout début du premier coup quand on lit. Donc,
moi je me pose forcément une question, je me dis mais est-ce qu'à un moment les gens vont porter plainte, parce que bon bah là ça va, c'est pas très grave, mais si on fait une image de toi
il y a déjà eu des cas
en vrai, c'est possible,
ça porte atteinte à ton droit à l'image effectivement, et ça peut être aussi diffamatoire, donc il y a plusieurs motifs pour déposer plainte, et effectivement on est dans un flou juridique parce que le juridique, la loi, c'est totalement nouveau,
c'est de l'intelligence artificielle en plus,
et la loi elle fonctionne que de manière rétroactive en fait, c'est une fois qu'on a constaté quelque chose qui peut poser problème, on peut créer une loi et ensuite, rétroactivement, ça va prendre énormément de temps. Mais ça va super vite.
Et puis les députés vont rien y connaître encore.
Ils vont pas
ils vont rien comprendre. Mais même nous, on comprend rien.
Nous, en soi, aussi, quand on a vu les photos, au tout début, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais quoi ?
Le pape ?
Oui.
Moi, je trouve que ça se voit.
J'étais en mode...
Donc,
stylé, mais quoi?
Ok, stylé.
Mais déjà, c'est pas crédible. D'un point de vue caractère, le personnage, enfin, qui est le pape,
oui,
n'aurait
moi,
pas pu.
En fait, moi, je ne le connais pas, le personnage. Donc, tu vois, pour moi, c'était. Pour moi, le pape, tu vois, c'est. C'est un vieux monsieur. Et voilà, tu vois, c'est
là,
ça,
il a une attitude hyper dynamique pour un vieux monsieur qui est pas en très bonne santé, en plus. Normalement, il est en limite en train de courir.
C'est vrai que, après, quand on y repense et quand on revoit les vidéos de comment il marche, etc., là, c'est sûr, c'est vrai que là. Oui, c'est vrai.
Ouais.
Mais c'est vrai. Mais sur le coup, vu que je connais pas
on peut vite faire.
En tout cas, Sarah, tu l'as dit rapidement, on peut tout deviner que c'est une image de synthèse à travers les mains, généralement.
Ouais.
Ce qui trahit une image de synthèse, en général, c'est les mains, les oreilles, le reflet dans les yeux. Quand il n'y a pas de reflet dans les yeux, c'est mauvais signe.
Ouais.
Et le grain de peau, surtout. Une image de synthèse, la peau, elle est incroyablement lisse, généralement. Donc, c'est assez criant. Et pensez à faire une recherche inversée si vous avez un doute. Vous allez sur Google Images, vous faites une recherche inversée.
Aussi, des fois, ça, après, c'est des petits détails, mais les contours aussi de l'image, sur la personne.
D'accord, ok.
Voilà.
Ok, ben, ça c'était les deux petites actus intelligence artificielle. D'ailleurs, Dina, est-ce que tu en parles dans ton bureau, dans ton agence chez Pecla, est-ce que vous parlez d'intelligence artificielle ?
On a eu une thématique l'année dernière où on explorait justement la portée créative de l'intelligence artificielle. Et même pour, donc on en parlera plus tard, mais on édite vraiment des vrais books de tendance. Et pour illustrer cette thématique, on a fait appel à un logiciel d'intelligence artificielle qu'on a briefé pour éditer une image. Et on l'a briefé 3 fois en allant de plus en plus précisément dans les détails. Et du coup, la couverture, enfin, l'image d'entrée, parce qu'on a toujours une espèce de belle image d'entrée qui est immersive pour la thématique. En fait, c'est la succession de ces 3 images qui montrent comment l'intelligence artificielle, en quelques minutes, peut apprendre et vraiment préciser encore plus son esthétique. Donc oui, on en parle évidemment, suit ça de près.
Oh, mais je suis fascinée par ça, effectivement, et l'intelligence artificielle progresse à une vitesse folle aussi, parce que c'est du machine learning, donc ça veut dire que plus tu la laisses faire, elle apprend toute seule.
Bien sûr.
Jour et nuit, donc c'est assez incroyable, ça va plus vite que l'humain, en fait.
Il y a, on en parlait ce matin à l'agence, et il y a aussi des intelligences artificielles qui sont des amis virtuels maintenant, donc ça c'est... Je trouve qu'on parlait du handicap et tout ça, je trouve que c'est très très bien parce que ça permet en effet à des personnes qui sont peut-être dans des situations de santé mentale graves d'avoir accès à de la compagnie, mais ça pose aussi des questions d'éthique, enfin voilà, c'est encore un domaine très flou. Moi je me souviens du film Her, je sais pas si, enfin, c'est où ça tombe dans la folie gravidique, enfin voilà, c'est évidemment c'est dystopique, mais il faut faire attention, il faut y aller progressivement.
Ouais, c'est encore un flou juridique et même éthique énorme, quoi.
Ouais, c'est Black Mirror, on est en plein dedans.
Ouais, c'est clair.
En plein dedans, c'est effectivement. Et d'ailleurs, il y a même une Fashion Week d'intelligence artificielle qui va se dérouler à New York. Ouais. Faut que je retrouve l'info rapidement. Oui, c'est du 20 au 21 avril.
Oui, j'avais vu ça.
Au Spring Studio à Soho. Du coup, plein de créateurs et créatrices d'IA vont montrer leurs créations.
Oui, incroyable.
Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un truc qui me fascine aussi, c'est que tout le monde trouve ça sublime. C'est hyper intéressant d'un point de vue créatif. Ça permet de faire de la recherche assez rapidement. Mm-hmm. Mais on ne se pose pas assez la question de la reproductibilité technique, en fait. Mm-hmm. Waouh, c'est magnifique le pape en doudoune, mais est-ce que cette doudoune aurait pu la créer véritablement? Bon, la doudoune, je pense que oui. Mais parfois, il y a des images de synthèse qui sont faites avec des vêtements incroyables, mais on ne saurait pas les fabriquer, en fait. Enfin...
Mais est-ce que c'est fait pour le métaverse ou est-ce que c'est fait pour être dans la vie réelle? Il y a quand même aussi
une différence. Bien sûr.
DressX, par exemple, on sait très bien que le catalogue, c'est fait pour en mettre plein les yeux de façon digitale, mais en soi.
On sait qu'on va pas le produire derrière. Et au final, je me dis, ce qui c'est aussi intéressant de que finalement le point de départ soit quelque chose qui n'est pas forcément possible en termes de production, en termes de confection, parce que de toute façon, les ateliers des grandes maisons, ils ont ça en eux de se challenger constamment pour produire des choses de plus en plus incroyables visuellement et techniquement. Mm. Donc je pense que c'est cool aussi que ça aille dans l'autre sens, qu'on s'inspire de choses qui, entre guillemets, n'existent pas vraiment et qu'on essaie de les reproduire grâce à nos ateliers. Enfin, en tout cas, en France, on a des ateliers incroyables, donc je pense que c'est complètement faisable.
Carrément.
Qui s'amusent à reproduire des choses qui ont l'air irréelles et puis finalement qu'on puisse les toucher.
Toi, ça t'inspire ?
Ouais, carrément. Bah moi, je pense depuis le début de la marque, il y a un côté futuriste que j'essaye d'intégrer et tout ça. Que je regarde. Bon, alors moi, j'ai pas les mêmes moyens que les grands ateliers. Donc, j'ai mes limites budgétaires et mes limites techniques. Mais ouais, tout le côté futuriste. Et en effet, DressX, ça me fascinait. Et je me disais, mais c'est incroyable de faire des choses comme ça. Donc, ouais, c'est quelque chose que je regarde et qui m'inspire, de toute façon. Ouais.
Et en parlant de DressX, vous achèteriez des vêtements virtuels? Est-ce que ça vous viendrait l'idée?
Non.
On n'est pas là.
Je ne suis pas du tout la cible.
Bah, en soi, oui, ça existe déjà dans le domaine du jeu vidéo.
Oui.
T'achètes
des skins, t'en achètes, toi?
Bah, ça m'est déjà arrivé, oui.
Ouais.
Ça m'est déjà arrivé.
J'arrive à comprendre, puisque tu te reproduis un monde.
En fait, c'est je ne sais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce qu'on ressent quand on achète un skin, par exemple, pour un personnage? Mais en fait, c'est le fait de le personnaliser, le fait qu'il y a tout ça. Ouais. Et par exemple, moi, je propose maintenant actuellement à des créateurs de pouvoir en fait faire de la 3D pour en fait que leurs vêtements se retrouvent dans des jeux vidéo. Mmh. Et par exemple, pour le jeu GTA V, qui est un jeu à la base de gangsters, etc. Mais en fait, il y a une chose qui est incroyable, c'est qu'on peut personnaliser de A à Z notre personnage.
Trop bien, c'est trop bien.
Et il y a des gens qui ont fait utiliser de l'intelligence artificielle, mais également qui ont utilisé leur propre façon de faire de la 3D, qui ont fait tout simplement des modes on appelle ça comme ça, MOD, des modes en fait sur des marques de vêtements qui existent déjà, à les mettre sur les personnages. Donc des fois, nos personnages peuvent porter du Louis Vuitton, du Balenciaga, de tout en fait. Et en fait, c'est bah, les gens, ils aiment, ils mettent en fait, ils mettent ces vêtements-là à leur personnage parce que ça le personnalise, parce que ça va bien avec l'histoire du personnage. En plus, avec GTA, bah, on a cette tendance de théâtre virtuel. Maintenant, on peut faire du théâtre virtuel via ce jeu-là. On appelle ça du roleplay. Donc, on a un personnage, on crée son histoire et son style vestimentaire également, qui n'est pas forcément comme le nôtre et tout. Donc,
c'est hyper cool. Mais c'est hyper plausible.
Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça donne de la visibilité. Et en fait, les marques ne le voient pas, mais ça donne énormément de visibilité.
Et je pense que ça, les marques vont finir par se...
Un peu plus. Ouais, hein, t'as cité... Il y a Burberry déjà aussi.
C'est ça. Il y a les Sims aussi. Voilà.
J'ai mis dans le chat un article que j'avais écrit sur Balenciaga, qui avait justement créé des skins pour Fortnite. Et ils avaient même créé un jeu vidéo, en fait, par rapport à... C'était en 2021,
Après moi, créer un jeu vidéo, c'est quand même quelque chose de... C'est un énorme projet, très long, très cher, extrêmement cher, et même plus cher que faire un défilé de mode, je vais pas vous mentir. Donc oui, effectivement, le fait de créer un jeu vidéo, ça peut être bien, mais ça va pas aller plus loin. Donc il vaut mieux laisser... proposer ses créations à des jeux vidéo qui sont déjà bien placés, comme Fortnite, comme GTA V, comme les Sims, en collaboration, et proposer leurs produits qui soient en fait tout simplement habillés par les avatars en fait.
Mais là, ça reste dans le domaine du pur virtuel, c'est-à-dire on crée du vêtement virtuel pour un avatar qui est virtuel. Alors que par exemple toi qui stream, dont c'est le métier, ou Anthony aussi. Vous pourriez aussi acheter des vêtements DressX qui soient filtrés sur vous pour animer en fait vos streams. C'est possible aussi. Je sais pas du tout.
Je suis
limite boomer.
C'est possible. Mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est que ça en soi, ça leur donne de la visibilité, ça leur fait de la pub. Et il y a ce truc de notre avatar. Qu'on le veuille ou non, indirectement, on s'y attache.
Ouais.
Et quand on remarque dans la vraie vie ce vêtement que notre avatar portait, ça peut nous donner cette envie de porter également.
De basculer après. C'est clair. Ouais, mais c'est vrai que pour DressX, moi, de moi-même, pour mon Insta, c'est non, quoi.
Mais effectivement,
mais je suis pas la cible du tout.
Il y a d'autres cibles. Effectivement, il y a des créateurs et créatrices de contenu qui s'achètent des vêtements virtuels pour les mettre sur eux et faire des selfies avec. Et ça fonctionne très bien en fait.
C'est ton métier d'être créateur de contenu et que tu dois poster de la mode, que tu veux poster de la mode. Je peux comprendre.
Oui, puis tu peux y mettre une démarche un peu éco en fait.
Exactement.
Le fait de pas acheter de vêtements, ça peut être vu aussi comme ça, mais c'est pas plus.
Ouais, exactement.
Ok. Mais effectivement, peut-être que ça permet aussi de rendre la mode plus inclusive, peut-être. Et en parlant d'inclusivité, transition pas du tout téléphonée de ma part, je voulais vous parler de Telfar. Je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est quoi votre rapport avec cette marque d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez?
On en parlait un petit peu avant que...
En off.
Je vois que c'est une marque qui fait beaucoup parler. Je vois ce sac partout. Moi, j'ai un rapport avec la maroquinerie particulier. J'ai monté une marque de maroquinerie avant de lancer ma marque de bijoux. J'aime la belle maroquinerie. Donc, je suis un peu fascinée par Hermès, par l'OEV, par des maisons qui font de la belle maroquinerie. Et donc, pour moi, Telfar, c'est pas de la belle maroquinerie. C'est des produits forts, très identitaires, très in-season. Mais c'est du simili-cuir. C'est pas des finitions qui me font rêver. C'est pas un volume et des détails de coupe, etc., qui me font rêver. Mais j'arrive à comprendre que c'est un produit désirable, il est extrêmement facile.
Oui, puis c'est un produit aussi communautaire, parce que c'est une marque qui est un peu l'étendard d'une communauté, comme ont pu l'être à l'époque des Foubou, par exemple. Donc c'est une marque...
Tu t'achètes un clan.
Voilà, plus de l'identité que t'achètes plutôt qu'un produit. Sinon, je te rejoins totalement. Moi, je suis limite outrée de la qualité des sacs et du prix auquel ils sont revendus.
Mais on n'achète
voilà,
pas ça.
On achète une identité, une appartenance, plus qu'autre chose.
Oui, parce que le sac initial, il s'appelle le tote, tout simplement, oui, le cabas. Et en fait, c'est donc un carré en simili-cuir que Sarah va vous montrer. Et en fait, il est extrêmement simple. Il y a le gros logo au milieu. Et on le surnomme le Bushwick, le Birkin de Bushwick, parce qu'il coûte vraiment peu cher.
C'est génial.
Et effectivement, c'est très communautaire. Ça devient un signe de reconnaissance entre pairs, entre jeunes créatifs qui adorent avoir ce sac-là et se dire « Ah oui, moi aussi, je suis cool. » Et j'ai le même sac, on va le montrer.
C'est hyper pointu.
Ça ressemble à ça. C'est sûr, vous l'avez déjà vu une fois dans votre vie, genre sur les réseaux sociaux ou même, même à l'extérieur.
Et alors, en photo, il rend très bien, mais en réalité, quand on le touche...
Oui. Parce qu'il est en simili-cuir, voilà. Il fait très plastique.
Il est beaucoup moins sexy.
Oui, il fait hyper cheap.
Il se vend...
Il s'use très rapidement.
Il s'use très vite, effectivement. Et il se vend... Initialement, en première main, 150 euros à 300 euros. Mais en seconde main, justement, hyper comme cher. Certaines couleurs se partent très vite, il se revend hyper, hyper cher. Et ça va à l'encontre de ce que voulait Telfar Clemens, le créateur de la marque, qui n'est pas si jeune. La marque n'est pas si jeune, elle a une dizaine d'années quand même, mais il est toujours présenté comme un jeune créateur. C'est assez fascinant à observer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, son but, c'est de rendre le luxe le plus inclusif possible, de rendre la jeune création accessible. Et pour ça, il a proposé de changer complètement le modèle économique des marques, de la façon dont on fixe les prix. Normalement, dans la façon dont on fixe les prix habituels, traditionnels, c'est, on va dire, mon sac, je le produis pour 100 euros, je vais le revendre 200 euros, histoire de me faire une marge, voire plutôt 300, en fait. Oui. On fait souvent x3. On en parlera, si vous souhaitez, après, du pricing pour les marques. Et du coup, lui, il fait l'inverse, il le met à 100 euros et chaque jour, le prix va augmenter jusqu'à la rupture de stock. Et une fois que le produit va atteindre la rupture de stock, il va cesser de le vendre à ce prix-là. Enfin, il va le proposer au prix de la rupture de stock. C'est pas très clair, c'est hyper compliqué à expliquer, mais en gros, si c'est un sac qui était vendu 100 euros, le lendemain, il sera à 101, 102, 103, 104, jusqu'à la rupture de stock. Et une fois, par exemple, qu'il arrive à 145, c'est la rupture de stock, et ben, au moment du réassortiment, le réassort, peut-être au bout de 3 mois ou 4 mois, quand il va refaire des produits de ce type-là, il va le proposer au prix de la rupture de stock.
Donc
si ça atteint la rupture de stock à 145 euros, il le proposera à 145 euros. Et donc c'était tout ça à expliquer à sa clientèle, c'est hyper compliqué parce qu'il faut comprendre un peu comment marche la mode en général. Mais il a fait plein de vidéos dans tous les sens, on va vous montrer ça tout de suite.
Alors.
Et voilà, donc s'il appelle ça l'opération de Telfar Live.
J'arrive pas. Non, mais vraiment, je pense qu'il va faire.
C'est complètement contre-intuitif en fait.
Mais bon, après, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait, hein, j'imagine.
Donc, alors, il me semble que de toute façon, c'est pas pour les sacs, c'est pour les vêtements.
Effectivement, c'est pour le prêt-à-porter.
Ces vêtements se vendent quand même moins bien que c'est le sac qui tire la marque.
Effectivement, c'est pour le prêt-à-porter, gender fluid et pour toutes. C'est très inspiré du sportswear. Il a notamment fait une collection Il est originaire du Liberia. Et c'était assez fou, c'est vraiment du sportswear pur et dur et même taillé pour la performance sportive. C'était vraiment canon. Je voulais tout.
Non, des super combis asymétriques et tout, des belles couleurs, des élégances et tout. Bon, bref, pardon.
Sa pièce de prêt-à-porter la plus connue, c'est les débardeurs avec deux bretelles d'un seul côté.
Okay,
ce qui a été reproduit par tout le monde après. C'est lui qui avait un peu dans un truc.
Aussi des montants.
Oui, oui. Ah bon, elle est formée avec une je crois qu'il avait fait un article sur le débardeur, comment il est passé d'un symbole masculin à un symbole queer et féministe, notamment sous la houlette de Helmut Lang. Mais c'est une autre histoire. Mais effectivement, c'est assez contre-intuitif parce que normalement, dans la mode, on fait plutôt l'inverse. En fait, on va proposer plein pot un article à 300 euros alors qu'on l'a produit pour 100 euros à peine. Et ensuite, on va faire une première démarque. On va le proposer à moins 20%. Donc, on va le proposer à 180 euros. Enfin, non, je suis en bas, 280, quelque chose comme ça. Et après, on va faire une deuxième démarque, puis une troisième démarque et peut-être jusqu'à arriver à 120 euros, voire 100 euros. Et là, on ne fait pas de bénéfice. Quoi.
Mais du coup, là, ce sera que en ligne ou
Ouais, que en ligne. Il n'y a pas de boutique physique Telfar. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez qu'il va... Donc, t'as dit qu'il allait faire un four, Dina, tu penses?
Non, c'est pas ça. C'est juste que je trouve que c'est un modèle économique qui est hyper complexe, qui est, comme tu disais, contre-intuitif. Même, je suis complètement d'accord qu'il faut réinventer le modèle de la mode. Mais là, c'est un peu... franchement, c'est un peu tiré par les cheveux. Le consommateur, je pense qu'il faut plutôt aller vers plus de clarté concernant les marges et la façon dont est pricé un produit. Tu parlais de 3 fois. Je pense dans le luxe, on est à des marges à 12. Ouais, facile. Mmh. Hein. Mmh. Quand tu as des sacs à 6 000 euros chez Chanel, il n'est pas produit pour 2 000. Il est produit pour beaucoup moins. Donc, c'est plus ça pour moi qu'il faut réinterroger. Ce concept un peu de boursicotage du prix, je trouve que au contraire, c'est anti-inclusif. Parce que plus les prix augmentent, plus tu te détaches en fait, de ta clientèle de base. Et du coup, c'est pas trop l'ADN de Telfar de base. Mais bon, peut-être que je me trompe et que ça va fonctionner. Mmh. Il faudrait quand même un tuto beaucoup plus détaillé parce que là, je suis perdue.
Moi, je pense que ça peut créer une surconsommation du sac.
Peut-être aussi.
Dans le sens là, ce sera le prêt-à-porter.
Ouais, le prêt-à-porter.
Mais il est en déjà gros, sold out dès qu'il sort, il est sold out. Donc, ouais, bien sûr. C'est... À chaque sortie de sac, c'est sold out en 10 minutes. En fait.
Les couleurs sortent au compte-gouttes comme ça. Oui. Il fait des couleurs en édition limitée, etc. Pardon, je n'ai pas contextualisé. Donc...
Mais moi, c'est plus en tant qu'entrepreneur. Je me dis qu'il va tout vendre à perte, en fait. Mais bien, c'est vraiment ça que je me dis. Mais parce qu'en plus, il a une communauté, une clientèle qui est jeune. Et qui réagit vite à l'achat en ligne, au drop, etc. Qui sait comment
et
faire,
fidèle.
Etc. Qui est fidèle. Mmh. Donc, le premier truc que je me dis, c'est mais il va tout vendre au prix wholesale, en fait. Il va tout vendre au prix usine, quoi, grosso modo. C'est ce que je me dis.
Ouais, j'ai du mal à comprendre l'algorithme.
Mais j'ai hâte de voir comment ça va réagir. Je suis vraiment curieuse. Mais
je pense qu'il y aura beaucoup de précipitation au niveau des achats.
Ouais, c'est ça. Pour moi, il y aura de la précipitation.
Est-ce que l'algorithme aura le temps de s'adapter, du coup, de faire flamber le prix?
Mais moi, je pense que ça, je me dis, c'est qu'il n'y aura pas le temps de faire monter le prix.
C'est bizarre.
Effectivement. Mais en fait, c'est ce qu'il dit, c'est que son but, c'est que ça parte vite. Atteindre rapidement la rupture de stock pour que le prix définitif soit le prix le plus bas possible. Okay. C'est ce qu'il dit. Ce qui est assez fou, en fait, c'est le plus tôt vous l'achetez, le moins c'est cher.
Ouais, c'est, ouais, c'est, ça,
attends, c'est quoi le truc qu'il a
Moi,
a
j'ai un truc
faire derrière.
Ouais, je pense. Ouais.
Ou alors, il ment et en fait, ce qu'il annonce comme étant le prix wholesale, c'est pas possible, le prix wholesale. Petit point de vocabulaire.
J'espère pas qu'il mente parce que c'est vraiment pas son positionnement.
Oui, c'est vrai.
Ce serait vraiment abuser de sa part, genre vraiment de faire volte-face et d'un seul coup de mentir.
Ou alors son projet c'est aussi de faire de la pédagogie en fait, parce que là en faisant ça il informe tout le monde sur la différence entre le prix wholesale et le prix retail. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Qui veut expliquer?
Vas-y Kitty.
Le wholesale c'est le prix auquel un magasin achète un produit avant de le revendre. Exemple, Le Bon Marché va acheter par exemple une marque, imaginons si j'étais au Bon Marché, ils vont m'acheter mon produit, je sais pas, 75 euros, et ils vont le revendre 195 euros,
250,
ouais, 250 voilà, dans leur magasin, parce que eux faut bien qu'ils se prennent une commission, ouais. Voilà, pour vivre tout simplement, parce que c'est leur métier aussi de cas, c'est censé être leur métier de dénicher des talents, mais ça c'est un autre
ouais, non,
et de vendre, de les présenter à un public. Voilà. Donc c'est un peu ça. Le prix wholesale, c'est un peu le prix de grossiste, si on veut dire
c'est ça.
Un peu
ouais, c'est
vulgaire,
ça.
Voilà, ouais. Ce serait ça. Donc voilà.
Donc le wholesale, c'est le prix de gros, et le retail, c'est le prix de détail.
Ouais, oui. Ça, dans le magasin quand vous l'achetez. Mm.
Et voilà, exactement. Et donc, l'opération Telfar Live, elle débute le 27 mars, donc ça a largement débuté, et ça devrait se terminer le 24 avril, parce qu'en fait, les drops sont progressifs, et le but, c'est que tout parte le plus vite possible, d'après Telfar Clemens, le créateur. Okay. Donc, dites-nous dans le chat si vous y croyez, si ça vous donne envie d'acheter ou pas du tout. Mais effectivement, Sarah, je pense que t'as raison, ça va... En fait, pour moi, c'est de la précommande qui dit pas son nom.
Ah, ouais. Parce que le produit n'est pas dispo tout de suite ?
Si, officiellement, il est disponible tout de suite.
Donc, normalement, si je l'achète, je le reçois dans la... Enfin,
théoriquement, tu le reçois très vite. Ouais.
Mais par contre, c'est vrai que ça peut aider à ajuster beaucoup plus rapidement les niveaux de production. Ça, ça en revanche, je trouve que c'est intelligent de se dire, ben voilà, on a estimé des quantités. Notre réalité, c'est que sur les t-shirts, on vend... Bon, je dis des banalités. Hein.
10 000,
sur les t-shirts, on vend plus que sur des vestes. Donc demain, on va réadapter et on va réadapter peut-être le prix de base pour être plus rentable ou juste ou je sais pas.
Oui, effectivement, ça permet de mieux gérer les stocks et la production, puisque de toute façon, il va vendre jusqu'à la rupture de stock, donc ça va aller assez rapidement. Et aussi, je pense que... Enfin, je disais que c'était de la précommande qui ne disait pas son nom, c'est que je pense qu'il va produire très peu de pièces. Ouais, et en fonction du désir des gens qui vont s'inscrire, eh ben, il va se dire « Ah, bah lui, je vais le produire à 10 000 exemplaires, et lui, c'est pas la peine d'en faire énormément, quoi. » Donc voilà, c'était la petite actu sur Telfar Clemens, qui est assez compliquée à comprendre, mais qui permet effectivement de comprendre... J'aimerais bien, j'aimerais bien.
Il est le bienvenu.
Évidemment, telle part, tu viens quand tu veux sur le JTM.
Exactement.
Autre actu en parlant de créateurs, il y a Jérémy Scott qui vient d'annoncer qu'il partait de chez Moschino. Est-ce que c'est un créateur que vous aimiez bien? Sarah, tu pleures.
Non, franchement, j'aimais trop, surtout sa personnalité. Genre, quand j'avais vu des interviews de Jérémy Scott ou des mini-reportages sur lui, etc., franchement, je kiffais sa personnalité. Et j'aimais beaucoup son univers Moschino, même si je pourrais pas tout porter ou quoi que ça. Il y a vraiment, j'aimais trop. Et je sais pas, cette folie, ce côté coloré, etc. Le mec, il s'en fout. Enfin, il s'en fout des codes. Très il Moschino. Joue avec.
C'est clair.
Enfin, moi, franchement, je kiffais de ouf. Et en fait, le truc, c'est que je ne sais pas maintenant. Qu'est-ce que ça va donner après? Enfin, c'est le after. Mais après, ça, c'est tout le temps comme ça quand un directeur ou une directrice artistique part d'une marque et tout, qu'on est rattaché à eux, qu'on est attaché à eux, à leur direction, t'as toujours ce truc. Mais c'est comment après? Ça va être comment après? Ça va plus être pareil après. Donc,
Et
j'arrive pas à imaginer quelqu'un le remplacer.
Je sais pas si elle est encore active.
Il a sa propre marque, oui. En fait, elle est active que le temps de collab. Ah, donc il va faire une collab avec Adidas, mais je pense qu'il va, ouais, il va se concentrer sur sa marque, je pense. Après, je vais faire une petite parenthèse, mais j'ai quand même vu beaucoup d'histoires sur Twitter au moment de sa communication quand il a dit qu'il quitte Moschino. Tout le monde s'est dit ah oui, c'est parce que t'es accusé de violence sexuelle, quoi. Donc
ah oui, d'accord. Okay.
Voilà.
Moi aussi, je savais pas.
How surprising.
C'est pas si surprenant, effectivement. Vous, qui est-ce que vous pensez, qui est-ce que vous voyez chez Moschino après?
Oh my god.
On a essayé de trouver. Alors moi, je verrais bien. Je réfléchis à l'ADN de Moschino et quand je vois ce qu'a fait Lota Volkova chez Blue Marine et chez Miu Miu, je vois bien un retour un peu Y2K, comme ça, même années 80 de Moschino, une ADN très girly, un peu une nounou d'enfer. Enfin, c'était quand même ces années-là. Donc, je verrais bien une Lota là-bas.
Ah ouais,
ça pourrait être intéressant. Surtout pour refaire toute l'ADN bijoux aussi, justement, qu'il y avait, qui
très fort.
Dingue.
Ouais. C'était beau. Moi, je sais pas trop. Bah, en fait, comme c'est pas une maison qui me plaît énormément, enfin, c'est pas mon univers du tout. Ce qui est sûr, c'est que je comprends très bien l'ADN Moschino et je trouve que Jérémy Scott l'a super bien travaillé. Vraiment trop fort. Mais du coup, je crois que j'ai envie de voir un Moschino un peu moins années 80, un peu moins drôle. Enfin, quand je dis drôle, c'est drôle dans le premier degré.
C'est presque clownesque.
Voilà, clownesque. Et je crois que je disais ça à Dina, j'aurais trop aimé voir les mecs de Sonnet, qui est une marque italienne. Qui fait très italienne, mais qui a un côté fun, mais qui reste quand même facile à porter, accessible et tout ça. Et je crois que je me dis, ah purée, avec le budget Moschino et tout, ça pourrait être
Ça peut être pas mal.
Donc voilà, mais ça, c'est ce dont j'ai envie. Mais après, je ne pense pas que c'est le vrai Moschino. Voilà.
Non, je pense que la clientèle
serait une rupture radicale.
Ce serait une bonne rupture,
Ok, d'accord. Il y a une dernière actu dont je voulais qu'on parle ensemble. C'était Emmaüs qui tacle Vinted pour appeler aux dons de vêtements.
Oui.
Je sais pas si vous avez vu cette histoire. Oui, est-ce que vous achetez des choses sur Vinted déjà?
Oui, je consomme que Vinted.
Est-ce que vous donnez des choses à Emmaüs?
Oui,
beaucoup.
Ah, vous faites énormément. Les deux. Donc, à croire que c'est possible.
Oui, l'un n'empêche pas.
D'accord, ok. Ouais. Est-ce que vous avez vu cette histoire? Donc, en fait, en gros, Emmaüs a créé un faux profil sur Vinted pour dire que telle pièce n'était pas à vendre, donc il mettait des pièces fictives. Et en fait, il disait, faites des dons plutôt à Emmaüs, parce qu'il y a, il y a de moins en moins de dons, et les dons sont de moins en moins de bonne qualité.
Oui.
Et donc, en fait, est-ce que c'est de la faute de Vinted ou est-ce que c'est aussi parce qu'on produit trop de vêtements de piètre qualité?
En fait, c'est un tout, mais je trouve que c'est un peu trop facile de dire que c'est la faute de Vinted. Parce que bien avant que Vinted soit dans le marché et soit bien implanté, etc., et que les personnes utilisent Vinted, il y avait déjà des problèmes par rapport à la qualité des vêtements suite, en fait, haute fast fashion et ultra fast fashion également. Oui. Tu vois,
mais donc, par contre, les dons, en effet, je pense qu'ils en ont réellement... Moi, en fait, je travaille pas mal avec Emmaüs Coup-de-Main. Enfin, je dis Coup-de-Main parce qu'il y a le gros Emmaüs et dans Emmaüs, tu as plein d'associations.
Identités.
Voilà, identités.
Donc voilà la fameuse publication. Ouais. C'était ces t-shirts-là qui étaient postés en fait sur des posts de... des faux profils Vinted. Et en fait, c'était c'est pour faire un... Voilà, leur coup comme là-dessus, en alertant le fait qu'il y avait moins de dons. Après, le souci, c'est qu'il y a eu... Je trouvais que dans les commentaires, c'était très...
Mitigé.
Beaucoup de gens disaient même que, par exemple, il n'y avait pas forcément d'Emmaüs près de chez eux ou quoi que ce soit ou autre. D'autres disaient que souvent, ils voulaient faire des dons. Et au final, ça disait qu'il y a trop de vêtements, on n'en prend plus. Et après, les gens se retrouvent en fait à mettre dans
les bornes, le relais.
Alors qu'on sait très bien où ça va se terminer et que c'est encore pire. Donc oui, les gens après utilisent l'option Vinted. Et oui, après, financièrement, oui, ça donne des petits sous de droite à gauche. Les gens ne sont pas de refus pour gagner un peu d'argent suite à un vêtement qui date de je ne sais pas combien d'années. Pour moi... Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec leur communication. Genre, en fait, il y a des, on leur a plusieurs fois, il y a des gens qui leur ont reproché du fait que ça, il y a eu des donations qui ont été refusées parce qu'ils en avaient trop.
Oui, oui. Kitty, tu es en train de parler.
En fait, moi, je travaille avec Emmaüs Coup de Main. Donc, ils me font des pochettes pour mes packagings, etc. Avec des tissus, donc à partir de tissus donnés, de stocks, voilà. Et en fait, ils m'ont fait visiter toute la logistique pour comprendre comment ça fonctionne, etc. Emmaüs. Alors oui, ils ont beaucoup de dons, mais ils ont de plus en plus de dons de très mauvaise qualité.
De piètre qualité. Ouais.
Et en fait, ils arrivent en effet à... Ils récupèrent des choses qui sont de mauvaise qualité pour du coup que ça aille dans une espèce de recyclerie pour refaire des tissus avec. Mais du coup, ils n'ont plus de vêtements pour les vendre et du coup alimenter leur boutique, leur réseau de boutiques. Et c'est là où il y a un souci pour eux parce que leur réseau de boutiques leur permet de rémunérer tous les gens qui travaillent dans cette association, qui est quand même une superbe association qui dure depuis des années et qui permet à des gens de se réinsérer dans la société. Et c'est là où il y a un problème, c'est qu'on donne beaucoup pour de la recyclerie, mais on donne plus pour faire vivre leur boutique, qui sont un peu le lien entre nous, les clients, et leur association. Et donc, pour que cette association tourne, il faut qu'il y ait des choses en vente dans leur boutique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Emmaüs sont de plus en plus chères, parce qu'il y a de moins en moins de pièces qui peuvent être mises en vente. Donc, c'est un peu problématique. Moi, je sais que je donne très facilement Emmaüs.
Moi aussi.
Mais aussi parce que moi, j'ai tellement peu de temps dans ma vie que faire c'est une photo, mettre sur Vinted, c'est imprimer mon bordereau, aller au
magasin. C'est beaucoup de logistique.
Là, c'est mort.
C'est de la
logistique.
Oui, c'est vrai qu'en termes de rapidité, c'est vrai que Vinted, voilà. On ne peut pas reprocher du fait que maintenant, aujourd'hui, c'est plus facile de mettre un vêtement sur Vinted que de donner à Emmaüs.
Ah ouais, non, c'est...
Ça, c'est quelque chose qu'on... Moi, je
pense que c'est aussi...
Pardon, vas-y. On peut pas dire, maintenant, Vinted prend beaucoup de place parce que, comme tu dis, la logistique Vinted, en soi...
Faut vraiment avoir la foi pour le faire.
Les casse-couilles de Vinted, c'est...
Ça va négocier absolument.
Je suis un relou de Vinted, je négocie tout.
Moi aussi, j'en fais partie, en vrai.
Dites-nous dans le chat, vous, si vous êtes des relous sur Vinted.
Moi, il y a autre chose que j'aimerais soulever aussi, c'est qu'il y a eu une grosse montée de la seconde main là sur, on va dire, les 5 dernières années. Et aussi, les micro-business de seconde main. Et il y a beaucoup d'Emmaüs qui sont... excusez-moi le terme, mais pillé vraiment par des gens qui vont revendre plus cher derrière, sous l'égide du vintage et tout ça. Donc, en fait, l'offre aussi, il ne faut pas oublier que Emmaüs, c'est pour des personnes qui sont dans des situations
de
pauvreté, de précarité, qui sont plutôt nécessiteux, qui ne peuvent pas s'habiller dans les, même dans le pire du mass market ou de la grande distrib. Donc, ils sont obligés d'aller chez Emmaüs, ils n'ont pas le choix. Et aujourd'hui, l'offre qui reste pour ces personnes-là, elle est vraiment minimisée par tous ces revendeurs. Mm-hmm. Donc, je peux comprendre que sur toute la logistique, Emmaüs, ça a pu un peu faire grincer des dents. Mm-hmm. Mais la réalité, c'est que Emmaüs, c'est quand même une association d'autorité publique qui est vraiment majeure et hyper importante pour beaucoup de Français aujourd'hui. Mm-hmm. Et ils ont réussi leur coup parce qu'on a parlé d'eux. Donc je trouve que finalement c'est hyper bien parce qu'aujourd'hui quand on parle d'Emmaüs sur les réseaux, sur TikTok, moi je vois que des halls Emmaüs, ça me rend hystérique. Vraiment, je
pour moi c'est Emmaüs. Oui, c'est ça. Pour moi, Emmaüs c'est déjà une certaine cible. Hmm sachant qu'en plus, c'est si on n'en fait pas partie, pour moi, on doit les laisser aux personnes. Enfin, c'est comme un peu les personnes qui prennent des grosses tailles alors que ce n'est pas du tout leur taille, qu'ils en ont pas besoin. Pour moi, par exemple, ça aussi, c'est un problème. Ouais, c'est... Bon, même si oui, des fois, ça peut être compliqué de trouver sa taille, etc. Enfin, prendre des grosses tailles parce que c'est stylé, c'est oversize. Enfin, pour moi, faut pas non plus abuser. Enfin, il y a des gens qui ont du mal à s'habiller. Il y a très peu de vêtements de grande taille. Et t'es là, tu veux faire je sais pas quoi, à prendre des grandes tailles, alors que tu peux ce n'est pas pour toi. Ouais. Laisse aux autres. Et en fait, moi, je suis dans cette optique de laisser pour les autres. Je ne suis pas la cible, donc je laisse pour les autres. Je laisse ma place pour les autres. Enfin, pour moi, c'est une logique. C'est, après, je pense que c'est une question d'éducation et de respect aussi. Et aussi, par rapport à Vinted, ce que je voulais rajouter, parce que peut-être il y en a qui ne savent pas, tu as parlé des revendeurs, des personnes qui achetaient dans les friperies, dans les Emmaüs, etc.
Les brocantes.
Les brocantes pour après les revendre plus cher. Et en fait, il faut savoir que Vinted, là, par contre, là, oui, on peut leur taper sur les doigts, on crée un nouveau système qui permet en fait de certifier des revendeurs. C'est-à-dire en gros que maintenant vous avez des revendeurs qui se disent auto-entrepreneurs, fonctionnaires. Des fois, c'est des auto-entrepreneurs en fait, tout simplement.
Oui, bien sûr.
Qu'ils ont un numéro de série, etc. Et que quand tu achètes chez eux, chez les pros, ben, en fait, tu peux retourner l'article. Contrairement à si j'achetais à une personne...
Donc ils sont mis en valeur, en fait.
C'est écrit dans leur profil. Il y a un badge pro.
Exactement. Et ça, en fait, très souvent, quand on regarde ces profils-là de revendeurs, bah, qu'est-ce qu'ils revendent? Voilà. Ils ne revendent pas les vêtements qu'ils ne portent plus. Non, ils revendent des vêtements qu'ils ont achetés en masse.
Oui, mais c'est leur travail.
Voilà, parce que voilà, c'est leur travail, tu vois. Mais oui. Vinted a fait en sorte.
La plateforme de...
Voilà. Parce qu'à la base,
après,
Vinted
c'est
refusé.
C'est signalé.
Oui, mais à la base, Vinted refusait ces profils-là. Maintenant, ils ont créé un système pour que ces gens-là, en fait, puissent être sur la plateforme et être accessibles comme, en fait, les autres vêtements.
Ça se fait de manière relativement automatique parce qu'en fait, quand tu dépasses un certain chiffre d'affaires sur Vinted, t'es obligé de passer pro.
Bien sûr.
Ouais.
Donc, et même en dehors de Vinted, en fait. Donc, mais ça, ce serait la même chose si tu chinais toi-même toute seule en dehors de Vinted des vêtements et que tu revendais toi-même toute seule dans ta cave.
Mais Vinted, ça donne quand même une grosse visibilité, qu'on le veuille ou non.
Oui, mais en fait, il faut faire avec l'époque, quoi. Donc, moi, je trouve ça honnête.
En fait, Emmaüs est devenue une destination en mode, ce qui n'était pas du tout le cas. Ouais. C'est ça le fond du problème. Et du coup, ça a drivé beaucoup d'autres consommateurs qui ont un pouvoir d'achat plus élevé aussi. Donc c'est pour ça que les prix flambent. Ça a vraiment paupérisé les rayons dans le sens où il y a vraiment plus grand chose dans les rayons. C'est plutôt ça pour moi la clé du problème, c'est qu'on a oublié pourquoi Emmaüs existait en fait à la base. Et pour répondre aux gens qui disent Emmaüs ne me prend pas mes vêtements, pas de problème, il y a des recycleries partout, en fait. Donc, moi, je ne vais pas chez Emmaüs, j'ai des recycleries dans le 20e partout. Je les donne, ce sont des associations, c'est la même destination, c'est des prix qui sont parfois des prix libres. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à donner plutôt que de grappiller.
Toujours vouloir rentabiliser.
Voilà, c'est ça. Et n'oublions pas Mondial Relais derrière Vinted et tous les systèmes de livraison. Ça peut aussi interroger sur le système.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Effectivement. Il y a Louisie dans le chat qui dit « Kitsi, ça fait plaisir de te voir ici. J'ai l'habitude de t'entendre sur YouTube. Bisous à vous tous. »
Ah, merci.
Voilà, bisous.
Ouais, première fois sur Twitch, là.
Bah, comment ça se passe, d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez de Twitch?
On est dedans. Ouais. On n'est toujours pas spectatrice, mais je me dis qu'il faudrait que j'observe, parce que moi, je suis assez fascinée par toutes les plateformes.
Ne m'engage pas.
Ouvrez votre chaîne.
Mais oui, je crois que ça me donne envie aussi de comprendre un peu mieux cet endroit. Cet endroit que je ne connais absolument pas. Parce que voilà, mais ouais, je me dis que j'ai envie d'observer. En tout cas, je suis toujours curieuse de tout ce qui est nouveaux réseaux sociaux. Donc pourquoi pas observer.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.